Radio Kapi.
Les informations, Blaise Jordan Shindani Kambala.
L'aéroport de Beni est devenu désormais principale porte d'entrée et de sortie aérienne du Nord Kivu depuis la fermeture de celle de Goma lors de la prise de la ville de Goma par l'AFC M23. Rentrée parlementaire dans les deux chambres hier à Kinshasa, les deux présidents ont tablé leur discours d'ouverture sur les dialogues entre Congolais sous le format annoncé par le président de la République ainsi que sur les accords signés dernièrement à Washington. Les députés nationaux et sénateurs ont repris officiellement le chemin de l'hémicycle ce lundi 16 mars au Palais du Peuple à Kinshasa après 3 mois de vacances parlementaires. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi ont débattu de ce que devraient être les priorités de cette session de mars 2026 au Parlement. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal Parler du matin. L'aéroport de Beni, devenu désormais principale porte d'entrée aérienne du Nord Kivu, et cela date de plus d'une année depuis que l'aéroport international de Goma est fermé après l'occupation de la ville par l'AFC M23. Cette situation, à vous en douter, fortement perturbé les principales liaisons aériennes dans l'est de la RDC. Dans ce deuxième numéro de notre série consacrée à la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province, nous nous intéressons, vous l'avez compris, aux installations aéroportuaires. L'infrastructure joue un grand rôle stratégique pour les voyageurs, les acteurs économiques et les organisations humanitaires. Mais ces équipements restent limités et nécessitent une modernisation urgente. Les explications de Martial Papi Mukeba.
Avec la fermeture de l'aéroport de Goma, la région de Beni a pris une importance particulière. Elle assure aujourd'hui l'essentiel des connexions aériennes dans la province et sert également des chefs-lieux provisoires du Nord Kivu. L'aéroport de Beni est devenu un passage obligé pour les déplacements et pour les opérations humanitaires. Plusieurs organisations y transitent en fait de rejoindre les zones d'intervention. Mais cette infrastructure ne dispose pas encore d'installations modernes capables d'accueillir des grands avions. Les anciennes structures, construites en planches, ont été détruites par un incendie, ce qui complique davantage la situation. Depuis quelques mois, les travaux de modernisation ont été lancés par les gouverneurs du Nord Kivu, mais les moyens restent limités dans un contexte sécuritaire difficile. Pour plusieurs observateurs, la construction d'un aéroport moderne à Beni apparaît comme une priorité stratégique pour renforcer la connectivité et soutenir l'économie ainsi que l'action humanitaire dans la région. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
L'amélioration de la résilience de la ville de Boma face aux catastrophes naturelles et les conditions de vie de ses habitants au cœur d'un protocole d'accord signé hier lundi à Kinshasa entre Expertise France et le ministère de l'Aménagement du territoire, financé par l'Agence française de développement FD en sigle. Ce projet vise à construire des infrastructures modernes pour lutter contre les inondations dans la ville de Boma. Notez qu'il est conçu pour une durée de 2 ans et demi et ce plan s'inscrit dans le cadre de l'initiative Ville durable. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ce projet vise à protéger la ville de Boma contre les catastrophes naturelles liées aux effets du changement climatique, notamment les érosions, les inondations, et adapter les équipements de proximité aux nouveaux risques. Il prévoit également de renforcer l'attractivité économique de la ville et d'améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes en s'appuyant sur une meilleure gouvernance urbaine et une participation citoyenne renforcée. Selon le directeur de l'Agence française de développement, ce programme attend aussi redynamiser la ville de Boma par la réhabilitation des infrastructures essentielles telles que la voirie, l'alimentation en eau potable et l'électricité. Hervé Conon.
Ce projet vise à redynamiser la ville, aussi à protéger cette ville, à la préparer aux impacts du changement climatique, en particulier sur les inondations au niveau de la ville de Boma. Alors ce protocole d'entente, il vise à définir les règles de fonctionnement entre Expertise France, opérateur de ce projet, qui va construire un certain nombre d'investissements pour le compte de la ville.
À chaque pluie, la ville de Boma fait face aux inondations récurrentes qui pourront certainement trouver solution avec la mise en œuvre de ce projet. Pour rappel, en novembre 2024, une pluie qui s'est abattue sur cette ville avait causé des dégâts matériels énormes et laissé plusieurs familles sans abri.
Cap sur le Haut-Ouélé, les activités d'orpaillage au point mort ou presque. En tout cas, elles tournent au ralenti, mais sont à l'arrêt dans certains chantiers du centre commercial des Libombi, situé à 80 km du chef-lieu du territoire de Dungo, constat des acteurs de la société civile locale. En cause, la flambée du prix du carburant sur les marchés consécutifs à une pénurie des produits pétroliers observée dans la zone depuis plus d'une semaine. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Actuellement, le litre de carburant s'est négocié autour de 6000 francs congolais, alors qu'il coûtait encore récemment environ 3500 francs. Les points de vente se font également rares, explique Justin Tigbadé, vice-coordonnateur de la société civile Force Vive du territoire de Dungu, qui séjourne dans la zone. Sur le terrain, les conséquences de cette pénurie se font déjà sentir. Dans plusieurs chantiers miniers, les générateurs et motopompes sont à l'arrêt, faute de carburant. De nombreux creuseurs artisanaux se retrouvent ainsi sans activité, ce qui affecte directement les économie locale et le quotidien des habitants. Justin Tingbadé.
Et maintenant, là, le sangier roulant circule moins. L'argent ne circule pas. Comme l'argent ne circule pas, ça fait qu'il y a banditisme dans les carrières ici. Les travaux de l'orpaillage dans la région ici fait absorber un grand nombre de jeunes. Et lorsque les histoires sont au ralenti, ils ne savent pas quoi faire. Certains se livrent à des cas de vol, de banditisme et consorts.
Pour rappel, plus de 300 camions citernes transportant des produits pétroliers en provenance de l'est de la RDC étaient restés immobilisés pendant environ 2 semaines à Mahagi, dans la province de l'Ituri, à la suite d'un mouvement de protestation des chauffeurs. Ces camions ont finalement repris la route pour alimenter différents centres d'approvisionnement à Ituri, dans le Haut-Ouélé et dans la province de la Tiopo. Bounia, Jean-Claude Lucky, Dile, Radio Okapi.
Direction le palais du peuple à présent. Bati Lukwebo sur une chaise éjectable. En tout cas, une pétition visant la déchéance du deuxième vice-président de la Chambre haute, le sénateur Modeste Bati Lukwebo, a été déposée hier lundi par un groupe de parlementaires. Les pétitionnaires l'accusent d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions. Le sénateur Danny Kabongo, l'un des initiateurs, précise toutefois que cette démarche n'a aucun lien avec la position récemment exprimée par Modeste Bati Lukwebo sur la question de la révision de la Constitution. Cette pétition intervient alors que le bureau du Sénat s'était déjà désolidarisé des déclarations du deuxième vice-président qu'il avait présenté comme des prises de position personnelles. Je vous rappelle que la journée d'hier lundi était consacrée à l'ouverture de la session parlementaire dans les deux chambres ici à Kinshasa. Nous allons d'abord au Sénat où l'appel au dialogue entre Congolais sous le format annoncé par le président de la République a été évoqué ce lundi lors de l'ouverture de la session parlementaire de mars. Le président de la chambre haute, Jean-Michel Samba Lukonde, affirme que le Sénat est disposé à accompagner cette initiative pour la cohésion nationale dans le respect du cadre institutionnel et dans l'intérêt supérieur de la nation. Il évoque par ailleurs plusieurs défis socio-économiques auxquels le pays reste confronté en dépit des efforts consentis par le gouvernement. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a affirmé que l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda et l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis conclu par le gouvernement congolais à Washington constituent une étape décisive dans la recherche d'une paix durable et le développement de la RDC. Il ajoute que les sanctions récentes imposées à l'armée rwandaise et à certains de ses officiers par l'administration américaine constituent un signal fort et une preuve éloquente que la communauté internationale est désormais résolue à veiller au respect par toutes les parties aux engagements pris. Faisant d'une pierre deux coups, après avoir assisté à l'ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée nationale, la députée élue de la Tchangou à Kinshasa a lancé un message aux femmes à l'occasion justement du mois de la femme. Marie-Kay Moutinga encourage les femmes à s'adonner à l'apprentissage des divers métiers afin de mériter une meilleure considération au sein de la société congolaise. Elle a lancé cet appel hier lundi à l'occasion de la rentrée parlementaire à la sortie du Palais du Peuple à Kinshasa. Marie-Kay Moutinga souhaite également que le nombre des femmes congolaises occupant des postes et des responsabilités soit revu à la hausse conformément aux dispositions de la Constitution de la RDC dans son article 14. Marie-Kay Moutinga au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
La rentrée parlementaire a eu au mois de mars. Et cela coïncide avec la célébration du mois international de la femme. Et nous, nous avons axé toutes nos activités autour de la paix. Autour de la paix parce que du moment où nous célébrons ce mois de la femme, nous savons qu'il y a des femmes à l'Est qui sont victimes de toutes les atrocités. Et cela nous touche profondément. Mais aussi, nous devons savoir que chaque année, nous célébrons le mois de la femme. Sous le camp politique, les intentions sont bonnes, mais les résultats ne sont pas encore satisfaisants parce que nous n'avons pas encore atteint la présence des femmes dans toutes les institutions en raison du prendre conscience. Nous aimerions aussi qu'on puisse appliquer un principe à compétence égale, priorité soit accordée à la femme et à la jeune fille. Aussi, nous aimerions que les femmes, elles-mêmes et les filles, s'adonnent à la formation et à l'éducation. Il faut qu'elles les méritent. Et pour qu'elles les méritent, elles doivent être formées et aussi elles doivent étudier.
Santé à présent, la population du Sud Kivu mobilisée sur le dépistage des maladies rénales. C'est l'hôpital de Panzi qui s'attelle à cette opération et elle porte ses fruits. Environ 600 personnes se sont fait dépister à cet hôpital dirigé par le prix Nobel Denis Mukwege du 10 au 13 mars dernier. C'était lors d'une série d'activités organisées pendant une semaine à l'occasion de la Journée mondiale du Rhin. L'initiative était portée par la responsable du service des néphrologies et hémodialyse à l'hôpital de Panzi, Dr Bassimane Bissimwa Parvine. On écoute les conseils prodigués à l'occasion de cette journée rendue par Moulezi Sabin, des propos recueillis par Jean Kassami.
Cette initiative a permis de sensibiliser la population et de renforcer la prévention de maladies rénales dans la communauté. Plus de 600 personnes ont bénéficié des consultations gratuites et des examens pour dépister les maladies rénales. Dr Bassimane Bissimwa Parvine a montré l'impact du diabète sur les reins. Le professeur Biye Massemo Diedone a montré comment les médicaments peuvent avoir un impact sur le rein. Et il a appelé la population à arrêter l'automédication, la phytothérapie et à respecter les doses de médicaments tel qu'est prescrit par le professionnel de santé. Le docteur Kikuni Besoulani George a montré l'impact que l'hypertension artérielle peut avoir sur le rein et a sensibilisé la population à respecter les mesures hygiéno-diététiques pour préserver la survenue de maladies rénales chez les hypertendus.
6 mois après l'attaque sanglante attribuée aux rebelles des ADF, le centre de santé de Ntoyo a rouvert ses portes dans le territoire de Lubero, au nord Kivu. Situé dans le secteur de Bapéré, cette structure sanitaire a repris ses activités depuis 5 jours. Mais la reprise reste difficile. Manque de médicaments, de matériel et d'équipements pour assurer une prise en charge correcte des malades. Des détails avec Martial Papimukeba.
Les activités ont certes repris au centre de santé d'Ntoyo, mais certaines prestations restent limitées en raison du manque de matériel médical, de médicaments et d'équipements dont une partie avait été emportée ou détruite lors de l'attaque des ADF survenue le 8 septembre 2025, attaque qui avait causé la mort de plus de 100 civils avec plusieurs maisons incendiées, selon Joseph Lungabo, infirmier responsable adjoint de cette structure. Cette situation complique la prise en charge des patients, notamment des habitants qui ont déjà regagné la localité d'Ntoyo. Pendant la fermeture du centre, de nombreux malades étaient contraints de parcourir de longues distances pour accéder aux soins de santé primaire. Joseph Lungabo appelle les autorités, les organisations humanitaires et les partenaires du secteur de la santé à soutenir cette structure en fait de renforcer ses capacités de prise en charge. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et puis cette colère des enseignants et personnels administratifs de l'Institut supérieur de développement rural ISDER dans les territoires de Congolo. Ils réclament 30 mois d'arriéré des salaires et accusent le comité de gestion de cette institution de la province du Tanganyika de mèche de gestion et d'autres griefs. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration hier lundi à Congolo. Ils ont ainsi saisi la justice. Mais le directeur général de cette institution, contacté par Radio Kapi, rejette ces allégations. Le point avec Paulin Munanga.
Ils sont au total 69, les agents de l'Institut supérieur de développement rural ISDER, qui revendiquent entre autres 30 mois de salaire de base. Et pourtant, ils rappellent qu'ils sont mécanisés depuis le quatrième trimestre de 2023. Et ils ont été mécanisés sur les mêmes listings que les agents d'autres institutions d'enseignement supérieur. Ces agents accusent les membres du comité de gestion de l'ISDER de mal gérer les fonds de cette institution. En outre, ils dénoncent l'absence prolongée du directeur général. Daniel Kikuni est le délégué syndical.
Utilisation des fonds de l'institution pour des besoins personnels et privés par le directeur général sous prétexte de démarches de mécanisation des agents conduisant jusqu'à la privation des primes locales des agents actifs. Absence prolongée de plus au moins 4 ans du directeur général de l'institution.
En réaction, le directeur général de l'ISDER dit n'avoir pas subtilisé les fonds de l'institution. Au contraire, il fait des démarches à Kinshasa pour l'intérêt de l'ISDER. Professeur Kitenge Bin Saleh précise que seuls quelques agents sont mécanisés et ils figurent sur les listings des pays. Il tient à préciser qu'une grande partie du personnel attend encore d'être mécanisé. Et il déplore le fait qu'il est victime des attaques à l'interne qui visent son remplacement à la tête de l'institution. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À Madagascar, le nouveau chef du gouvernement, Mamitiana Rajonarizon, a promis d'aller vite lors de la passation du pouvoir le 15 mars 2026 avec son prédécesseur Henri Ntialama. Il a annoncé vouloir s'entourer des ministres chocs capables d'obtenir rapidement des résultats. Mais derrière ces discours volontaristes, plusieurs chantiers majeurs attendent l'homme de confiance du président de la Refondation, Michael Randrianirina.
L'invité.
Les députés nationaux et les sénateurs ont repris officiellement le chemin de l'hémicycle ce lundi 16 mars au Palais du Peuple à Kinshasa après 3 mois de vacances parlementaires. Cette session ordinaire de mars s'ouvre dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité à l'est du pays. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi ont débattu de ce que devraient être les priorités de cette session de mars 2026 au Parlement. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Augustin Moulumba, vous êtes député national et cadre de l'UDPS. Vous êtes premier vice-président de la commission suivi et évaluation de l'Assemblée nationale. Vous venez des vacances parlementaires. Au vu de ce que vous avez constaté sur le terrain, quelles devraient, à votre avis, être les priorités de cette session de mars?
Je voudrais me dire, moi, personnellement, s'il était impérieux de nous demander quel sera l'objectif de cette session de mars, ça sera essentiellement tablé sur la sécurité de notre pays, dont certaines provinces sont sous l'emprise de l'armée rwandaise. Il faut le dire tout haut que la session de mars, c'est une session ordinaire. Il y a des propositions, des projets de loi et des matières spécifiques que le gouvernement peut déposer au sein des deux chambres. Nous voudrions que le gouvernement table aussi pour les soutiens de notre peuple et plus particulièrement sur la paix et la sécurité. La sécurité dans la province, une province de Kinshasa, et surtout dans les deux provinces sous l'emprise de l'armée rwandaise.
Vous avez parlé de la paix et sécurité qui devrait être parmi les priorités de cette session de mars. Quel devrait être justement l'apport de vous parlementaires dans la démarche visant à régler définitivement cette crise de l'Est du pays?
Nous voudrions d'abord auditer ce qu'il y a eu comme financement, parce que cette session, c'est une session consacrée essentiellement au sous-contrôle parlementaire sur la gestion du gouvernement, qu'est-ce qu'on a dépensé, et aussi bien ratifier les accords qui ont été signés par le gouvernement et le président de la République, les accords entre le Rwanda, les accords entre les États-Unis d'Amérique, et aussi foncer savoir qu'est-ce qu'il faut essentiellement pour que notre population de l'Est trouve la paix et l'ensemble du pays trouve la paix.
Merci. Émile Assani, vous êtes député national élu de Kindu sur la liste LGD, parti de l'opposition dont Matata Ponyo est le leader. Vous êtes également avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Quelles sont les réalités que vous avez constatées sur le terrain pendant vos vacances parlementaires et qui devraient constituer selon vous les priorités de cette session de mars qui vient de commencer?
La province du Maniema n'est pas une province qui se trouve au ciel. Nous vivons les mêmes réalités. Mais chez nous, c'est encore pire. Mieux, je dirais, c'est vraiment, tous les signaux sont au rouge. Le président de la République est à son deuxième mandat. Lorsque vous comptabilisez ces deux mandats, je crois qu'il est à sa septième année de pouvoir. Mais sur terrain, au Maniema, aucune réalisation. zéro réalisation. Bien au contraire, les quelques réalisations faites par son prédécesseur, tout est en train d'être délabré, détruit. La question de l'insécurité, ça c'est le vécu quotidien. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'énergie. Lorsque vous prenez les infrastructures urbaines, c'est-à-dire dans la ville de Kindu, vous ne pouvez pas vous déplacer d'un point à un autre. Quitter la ville pour arriver, par exemple, à l'université officielle, l'université de Kindu, c'est impossible. Et cela, malgré l'instauration d'une taxe conventionnelle instaurée par les gouvernements provinciaux.
Trésor Kibangula, analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli, quelles sont les priorités qui devraient être inscrites au calendrier de cette session qui s'est ouverte ce lundi?
Je pense que cette session, contrairement à ce que j'ai entendu notamment du député Moulumba, ce sera pas une session normale. Ça doit pas être une session normale. Ça doit pas être une session ordinaire. Je pense que ça doit être une session de clarification politique.
Clarification politique.
Je pense que oui, les élites politiques doivent, et surtout les députés nationaux, doivent profiter de cette session pour apporter des clarifications à des niveaux, des clarifications sur la guerre et la stratégie des sorties des crises, parce que ils ont aujourd'hui une opportunité enfin de récupérer un peu le débat, parce que le gouvernement est venu déposer le projet de ratification des accords de Washington. Donc il y a là l'occasion d'apporter des clarifications. Comment se fait-il que on ait signé des accords à Washington avec les Rwandais et que les troupes rwandaises soient toujours là et qu'on continue à se battre dans les Nord Kivu ou les Sud Kivu? Qu'est-ce qui se passe à Doha? Parce qu'on n'en parle plus. Deuxième niveau des clarifications, c'est au niveau de la trajectoire démocratique du pays. Cette session sera aussi une session pour auditer, examiner les rapports des institutions d'appui à la démocratie, du CESAC, de la CNDH, mais aussi de la CENI. Et c'est là où c'est plus important, parce que la CENI avait publié depuis avril 2025 une feuille de route. J'ai malheureusement pas entendu les deux députés revenir là-dessus. Où est-ce qu'on en est?
C'est la fin de ce journal coordonné et supervisé par Lévin Mbouinga-Voubou et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.